Ce matin au Radio Journal, l'espoir de retrouver des survivants disparaît après l'effondrement d'un pont à Baltimore.
We do not believe that we're going to find any of these individuals still alive.
Et des témoins importants attendus à la reprise des travaux de la Commission sur l'ingérence étrangère dans le processus électoral.
On veut que la confiance de la population soit maintenue envers le système électoral.
Bon mercredi à tous, ici Marie-Christine Bouillon. L'enquête se poursuit à Baltimore, aux États-Unis, au lendemain de l'effondrement du pont Francis Scott Key. Une équipe a pu monter sur le navire qui a percuté un pilier de la structure avant qu'elle s'écroule. Quant aux 6 travailleurs originaires d'Amérique latine qui étaient sur le pont lors de son effondrement, ils sont désormais présumés morts. Des plongeurs tentent de récupérer leur corps. Frédéric Arnould est à Baltimore.
Les opérations de recherche des dépouilles des 6 travailleurs du pont ont repris ce matin à Baltimore, ce qui a anéanti officiellement tout espoir de retrouver des survivants. Un coup très dur pour les familles qui espéraient toujours un miracle. Sauf que plus de 30 heures plus tard, il fallait bien se rendre à l'évidence. Pendant ce temps, depuis ce matin, les enquêteurs du Bureau fédéral de la sécurité dans les transports ont mis la main sur la boîte noire, ce qui permettrait d'essayer de reconstruire la séquence des événements qui ont conduit à la collision du porte-conteneur contre le pont. Comment expliquer la panne électrique du navire et le fait que les moteurs n'arrivaient pas à redémarrer pour tenter d'éviter le pilier du pont ? L'une des pistes à explorer par les enquêteurs sera aussi la qualité du carburant utilisé par l'embarcation. Une qualité défaillante aurait pu causer aussi ce genre de problème. Bref, tout sera passé au peigne fin, tant les commentaires des membres d'équipage du porte-conteneur que les questions au pilote local qui assistait le capitaine du navire afin de manœuvrer pour sortir du port. Une précaution supplémentaire prise traditionnellement pour ce type de bateau. Avec les données de la boîte noire récupérées, le Bureau de la sécurité dans les transports estime pouvoir obtenir des éléments de réponse d'ici ce soir. En attendant, le trafic maritime de la région portuaire risque d'être perturbé pour encore plusieurs jours. Ici Frédéric Arnould, Radio-Canada, à Baltimore.
De retour au pays, les audiences publiques de la commission d'enquête sur l'ingérence de la Chine et de la Russie dans le processus électoral canadien reprennent aujourd'hui à Ottawa. Plus de 40 personnes vont témoigner au cours des 2 prochaines semaines, dont le premier ministre Justin Trudeau et des membres de son cabinet. Voici les précisions de Valérie Gamache.
La première série d'audiences publiques qui s'est tenue en février dernier avait été dédiée à expliquer les limites des informations qui pourront être rendues publiques lors de la commission. Cette fois-ci, la juge Marie-Josée Hogg devrait plonger plus rapidement dans le vif du sujet, soit l'ingérence étrangère lors des élections de 2019 et 2021, puisque les premiers témoins entendus seront le directeur général des élections du Canada, la commissaire aux élections fédérales, tout comme l'ancien commissaire. Parmi les témoignages attendus d'ici le 10 avril prochain, notons celui du premier ministre Justin Trudeau et l'ancien chef du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole, et puis des députés qui ont été ciblés par le gouvernement chinois seront aussi appelés à témoigner. Parmi ceux-ci, notons le conservateur Michael Chung et la néo-démocrate Jenny Kwan. Les travaux de la commission devront se tenir rondement puisque le temps presse pour la juge Marie-Josée Hogg. Son premier rapport préliminaire doit être déposé le 3 mai prochain. Ici Valérie Gamache, Radio-Canada, Ottawa.
Le premier ministre Justin Trudeau refuse de suspendre l'augmentation de la taxe fédérale sur le carbone prévue lundi, comme le réclament ses homologues de l'Alberta, de la Saskatchewan, de l'Ontario et des 4 provinces de l'Atlantique. Dans une lettre, il leur écrit que son gouvernement est disposé à recevoir toute proposition de système de tarification de la pollution crédible, qui est aussi adaptée aux réalités des provinces. La taxe ne s'applique pas au Québec ni en Colombie-Britannique. Les 2 provinces ont mis en place leur propre régime de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans la région de Vancouver maintenant, le chantier naval Seaspan obtient 2 contrats d'une valeur totale de 500 millions de dollars pour amorcer la construction de navires polyvalents destinés à la garde côtière canadienne. Ils assureront un large éventail de services essentiels comme le déglaçage, la recherche et le sauvetage en mer, la recherche scientifique et des interventions environnementales. Le ministre fédéral de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Wilkinson, explique que cette annonce s'inscrit dans la stratégie nationale de construction navale.
Je crois que c'est quelque chose qui est très important. C'est une étape dans un grand programme pour avoir Seaspan de construire 16 navires pour la garde côtière du Canada.
Un premier lot de 6 de ces navires doit être livré d'ici 2030 à la garde côtière. En Ontario, le gouvernement Ford a déposé hier un budget qui présente un déficit de près de 10 milliards de dollars pour l'année 2024-2025. Il maintient la réduction de la taxe sur l'essence, une mesure qui, à elle seule, va priver la province de plus d'un milliard de dollars en revenus cette année. Par ailleurs, ce budget n'offre pas la bouée de sauvetage espérée par les universités et les collèges qui redoutent des baisses de revenus en raison du plafond imposé par Ottawa sur le nombre d'étudiants étrangers. Reportage Yannick Lepage.
Les appels à l'aide des universités et des collèges en Ontario n'ont pas été entendus par le gouvernement Ford. Le ministère responsable de l'enseignement postsecondaire a même vu son financement être amputé de près de 400 millions de dollars dans le nouveau budget. Et ce, même si les universités et les collèges devront faire face à des pertes de revenus de près d'un milliard et demi de dollars l'an prochain en raison de la décision d'Ottawa d'imposer un plafond sur le nombre d'étudiants étrangers.
Well, we're not going to allow colleges to fail.
Le gouvernement ne laissera pas les collèges faire faillite, a toutefois assuré le ministre des Finances Peter Bedlam-Falvey. Il a notamment réitéré son engagement d'investir 1,3 milliard de dollars sur 3 ans dans les établissements postsecondaires. L'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario estime pourtant que cette enveloppe est négligeable. La politologue Geneviève Tellier doute par ailleurs que la réduction du nombre d'étudiants étrangers génère des économies, comme l'espère la province.
S'il y a moins d'étudiants étrangers, il n'y aura pas moins de professeurs, il n'y aura pas moins de locaux. Et là, oui, ils vont perdre, effectivement. Donc, aucune compensation pour ces pertes-là.
Le gouvernement ontarien a par ailleurs octroyé 10 millions de dollars supplémentaires aux collèges et aux universités de petite taille et du Nord, des établissements qu'il dit financièrement vulnérables. Ici Yannick Lepage, Radio-Canada, Toronto.
L'ancien maire de Calgary, Naed Nenshi, obtient un appui important dans la course à la chefferie du nouveau Parti démocratique de l'Alberta. Une autre candidate, Rakhi Pancholi, s'est retirée de la course ce matin, un départ qui renforce encore le statut de favori de celui à qui elle offre son soutien. Marc-Antoine Leblanc a préparé ce qui suit.
Dans une vidéo d'un peu moins de 4 minutes publiée sur la plateforme X, Rakhi Pancholi a annoncé son retrait de la course à la chefferie du NPD. Bien qu'elle est fière de sa campagne, elle y met un terme pour se ranger derrière l'ancien maire de Calgary. Sa raison? Depuis que Naed Nenshi s'est lancé dans la course, le nombre de membres du parti a augmenté considérablement. Elle explique que tous les candidats ont reçu une mise à jour sur les ventes de cartes de membres du parti, la première depuis la candidature de Naed Nenshi. Et selon Rakhi Pancholi, ces chiffres montrent qu'en l'espace d'une semaine, l'ancien maire de Calgary a plus que doublé le nombre de membres du NPD. Pour le politologue au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily, l'impact du retrait de la députée d'Edmonton-Wildmud est significatif pour Naed Nenshi.
Or, là, il reçoit quand même un endossement et un retrait, avec le retrait qui fait en sorte que ça lance un message comme quoi, ben, il vient peut-être de l'extérieur, mais il semble être capable justement d'amener des nouveaux partisans.
Le premier débat entre les candidats restants se tiendra le 25 avril à Lethbridge. Ici Marc-Antoine Leblanc, Radio-Canada, Edmonton.
Et... Et restons en Alberta, un programme provincial qui aide la population à identifier les signes de la présence de sangliers connaît beaucoup de succès. Les cigalements ont même doublé depuis son lancement il y a 3 ans. Mais comme le rapporte Mélanie Morin, ce ne sont pas toutes les initiatives de contrôle de cette espèce invasive qui sont aussi populaires.
314 sangliers ont été éliminés depuis le lancement en 2021 de la campagne provinciale contre la prolifération de ces mammifères omnivores considérés invasifs, alors qu'entre 2018 et 2021, on en a tué 66. Deux autres initiatives, lancées en 2022, n'ont toutefois pas connu le succès espéré. Celle-ci offrait de payer des chasseurs pour traquer des groupes de sangliers, mais personne n'a collecté de récompense. L'offre prendra donc fin le 31 mars. Brian Brook est professeur à l'Université de la Saskatchewan et étudie les sangliers. Selon lui, les programmes de prime à la chasse ne fonctionnent pas.
Bounties don't work.
Il croit toutefois que l'Alberta est en bonne position pour maîtriser leur population. À sa connaissance, l'Alberta est la seule province à réellement financer des recherches scientifiques sur les sangliers.
To my knowledge, Alberta is the only province actually funding science-based research on wild pigs.
Et essayer de gérer leur population sans données scientifiques, c'est courir vers l'échec, dit le scientifique.
Trying to manage pigs without good science is absolutely setting yourself up for failure for sure.
La province ignore combien de sangliers se trouvent sur son territoire, mais c'est qu'ils sont surtout dans le nord et le centre. Ici Mélanie Morin, Radio-Canada, Edmonton.
Voilà, c'était le Radio-Journal de Radio-Canada. Excellente journée à tout le monde.